Toulourain Culture, l'esprit de la vallée.
Bienvenue dans le podcast Balade dans les genêts de Justin Winkler avec Rémi Gorge. Il suffit de marcher pour être confronté aux phénomènes clés du temps présent, de l'époque et du climat qui basculent. Prenons les genêts. Les genêts, c'est d'abord cette broussaille synanthrope qui a rempli le vide que la déprise agricole a laissé. C'est une broussaille qui apparaît comme uniforme, mais qui est composée d'essences diverses. Ce n'est bien sûr pas que de la brousse verte ou sèche. Elle est, comme Jean Giono appelle leur floraison, la divine comédie du printemps. Et Giono les décrit comme la peau du pays, dans laquelle on peut se blottir pour lire un livre ou qu'on choisit comme chambre à coucher. En avril 2003, je suis monté dans les genêts près du moulin de Barré en compagnie de la paysanne Malou, Marie-Louise Conil. Nous avons gravi le chemin rural qu'elle avait souvent emprunté avec ses brebis, un chemin qui avait disparu dans la broussaille jusqu'à ce que je le rouvre. Nous sommes arrivés dans une prairie, enfin, dans ce qui avait été une prairie, et nous nous sommes enlisés dans un taillis impénétrable de vieux genêts. Malou était choquée de voir ce lieu jadis familier repris par la nature et ainsi transformé en obstacle. Ça, c'était au printemps 2003. La capacité envahissante des genêts avait repris ses droits sur le petit chemin rural. 20 ans plus tard, j'ai refait le débroussaillage des vieux genêts qui avaient repoussé depuis et qu'il avait paré de nouveau. Et j'ai refait, le 11 novembre 2023, la balade, cette fois avec Rémi Gorge, agriculteur-éleveur des Omergues qui a présent vit à Rianette. Alors, on marche.
Alors voilà, bon, pour ce qui concerne, bon, ici on voit qu'il y a du genêt gris, genêt cendré, comme celui, nous on n'a que celui-là chez nous, hein, et le genêt espagnol, qui est arrivé dans les années 50. Avant, il n'y en avait pas ici. Donc, ça a fait que c'est une espèce quand même qui est très envahissante, le genêt espagnol, je trouve. Et ça a tendance donc à nuire pour la qualité des pâturages parce que c'est plus accessible pour les animaux, pour les pâturer en dessous. Voilà. Et avec la déprise agricole, bon, bah, ça a été un développement exponentiel quasiment dans toute la région. Il y en a maintenant partout. Alors on voit encore, ça fait des taches. On voit qu'il n'est pas là depuis des siècles. Ça fait encore des taches, mais qui chaque année s'agrandissent. À l'avenir, ça sera un souci. Parce que c'est l'indécence, et ça, quand ça brûle, bah, ça brûle. Ça chauffe. Et donc pour les feux, c'est pas, voilà, hein, c'est difficile d'arrêter un feu quand on se retrouve avec du genêt espagnol, hein, du reste. Hein.
Donc ça veut dire que le genêt espagnol progresse sur certaines routes.
Je pense que c'est une question d'altitude. Je pense qu'il doit s'arrêter à une certaine altitude. Ça vient des pays du sud. Hein. Je l'espère. J'espère. Mais vu que ça se réchauffe, je pense que tôt ou tard on en aura chez nous. Par contre, les chèvres, elles adorent les fleurs, et puis tout ce qui est les pousses de l'année, quoi, tout ce qui est tendre. Ça, elles adorent, elles se régalent. Et donc, ça entretient quand même. Ça évite à ce qu'il y ait une invasion. Le genêt espagnol, j'ai l'impression qu'il est beaucoup plus invasif. Voilà. Moi, j'ai vu les chèvres du Rove manger l'écorce quand même. Hein. Ça les fait mourir. T'enlèves l'écorce. Ça, je l'ai vu avec les chèvres qui le mangeaient, ils mouraient. Ça les fait mourir. Ou alors, elles se frottent les cornes dessus aussi. Puis ça altère la protection et hop, ils meurent. Voilà. Mais bon, ce qui est infaillible, c'est le feu, quoi. Il y a un côté négatif avec le genêt, donc son côté envahissant, du fait qu'il y a une déprise agricole, qu'il y a de moins en moins de troupeaux. Et avant, il faut comprendre que jusque dans les années 50, 60, il y avait une myriade de troupeaux. C'était les petits troupeaux, c'était 50, 100 brebis. Un gros troupeau, c'était 200 brebis. C'était vraiment un gros troupeau. C'était des gens qui avaient une ferme avec beaucoup de surface. Donc ça, le genêt ne pouvait pas être invasif. parce que les brebis et les chèvres s'en occupaient. Et consommaient tout ce qui poussait. L'avantage du genêt, c'est que c'était une légumineuse, il faut le savoir. Et ça transfère de l'azote qu'elle piège dans l'air, qu'elle chope dans l'air, dans le sol. Ça, c'est un point très positif. Il n'y a pas que des côtés négatifs. Quand on a du genêt qui ne prend pas toute la surface, qui a des îlots de genêt par endroit, c'est une bonne chose, parce que ça nourrit le sol avec de l'azote, donc l'herbe est quand même plus riche que celle qui pousse en dessous. Et en plus, ça fait de l'ombre pour l'été, et l'herbe qui est en dessous des genêts ne sèche pas. Elle reste verte, en règle générale, quand il ne fait pas trop sec, bien sûr, hein, quand ce n'est pas l'extrême sécheresse. Les brebis et les chèvres peuvent la consommer, même l'été. Moi, j'ai eu la bêtise de tout girobroyer au départ, parce que je ne connaissais pas grand-chose sur les techniques pastorales. Et j'ai appris en faisant des formations. Hein. Et donc, les techniciens m'avaient signifié qu'il vaut mieux faire des îlots et qu'avoir des genêts sur une pâture, ce n'était pas quelque chose de dramatique, loin de là, pour les raisons que j'ai citées. Et ça nourrit les chèvres. C'est un labier. Donc, elles n'en mangent pas trop, les chèvres. Elles en mangent un peu. Elles aiment bien les fleurs, tout ce qui est du printemps, tout ce qui est tendre. Ça, elles le mangent bien volontiers. Elles se gavent même. Par contre, après, elles en mangent qu'un tout petit peu. Parce que c'est indigeste pour elles. Ça leur provoque des problèmes, des douleurs digestives, donc elles n'en mangent pas beaucoup. Et par contre, elles en mangent toujours un peu. Voilà. Donc ça maintient, ça empêche le développement du genêt quand il y a des animaux, des chèvres et des brebis qui sont sur des pâtures. Voilà. Voilà. Et par contre, le gros souci qu'il y a avec le genêt, c'est que la nature ayant horreur du vide, et ben c'est ça, hein, celles qui sont le plus prêtes à se développer, ben, qui foncent, elles. Hein. Elles foncent, voilà.
Donc c'est un peu à l'encontre de la diversité.
Complètement. Absolument, tout à fait. Il y a plein d'espèces de plantes qui, lorsque le genêt, comme on peut le voir là, espagnol, a tout envahi, eh ben, ne peuvent plus pousser. Elles n'ont pas accès à la lumière. Hélas, accès aux nutriments du fait qu'il y a de l'azote, mais elles n'ont pas accès à la lumière. Elles ne peuvent pas se développer comme elles l'entendent. Donc il y a une dégradation dans la qualité des pâtures. Ça, c'est indéniable. C'est sûr et certain. Là, pour détruire des genêts comme ça, en mettant que des bêtes en pâturage, c'est peut-être 30 ans. Ça ne se fait pas en 5 minutes. C'est un travail sur le long terme, c'est sur le moyen terme. Il faut le savoir. C'est parce que tout est à l'abandon depuis des décennies. Hein. Moi, j'ai retrouvé les paysages d'ici au Maroc. Dans le Moyen Atlas, on retrouve exactement ce qu'il y avait ici il y a près de 100 ans, allez, 80 ans en arrière. Plein de troupeaux disséminés de partout, et puis de l'herbe rase partout. À perte de vue, sous les chênes verts, tout est pâturé, tout est entretenu, etc. Et avec une biodiversité incroyable. Parce que contrairement à ce qu'on peut croire, et ça c'est une idée qui est transmise dans l'esprit des gens, parce qu'il y a, je ne sais pas pourquoi, il y a peut-être un côté culpabilisant, le fait de croire qu'en laissant la nature intacte, reprendre entre guillemets ses droits, eh bien, ça va exactement à l'encontre des intérêts des humains. Et c'est pas du tout le retour de la biodiversité, bien au contraire. Il y a plein d'espèces, il y a certaines espèces qui sont envahissantes, comme on peut voir avec la déprise agricole, l'avancée de la friche, la nature ayant horreur du vide, elle le remplit. Qu'est-ce qui se passe? Eh bien, c'est le royaume des sangliers, des chevreuils, surtout des sangliers et du loup, qui lui, voilà, est à 40, 50, 60 cm de hauteur, 70. Et par contre, tout le reste, toutes les petites perdrix, les petits oiseaux, tout ça, ben, ça a disparu. Il n'y a plus de perdrix ici sauvages, ça n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'elles n'ont plus la nourriture, les terres n'étant plus travaillées, et l'habitat, qui ont disparu. Je pense que il y avait énormément de gens au XVIIIe siècle, qu'il a fallu nourrir tout le monde. Il y avait un gros problème pour l'accession au bois, parce que les gens se chauffaient et se nourrissaient, chauffaient la nourriture avec le bois. Et il y avait une telle pression dessus qu'il y avait des gros soucis. Et par contre, il y avait je discutais avec les anciens, avant il y avait du lapin. Bon, le lapin, c'est la myxomatose. Mais il y avait énormément de perdrix rouges, il y avait beaucoup de petits gibiers qui passaient plus, beaucoup plus de griffes que maintenant, beaucoup plus, parce qu'elles ne trouvent plus leur habitat et la nourriture nécessaire pour qu'elles puissent rester, quoi, voilà. C'est, la biodiversité a évolué, elle a changé. Et pas en bien. Elle s'est appauvrie, après, je trouve.
Résumons. Le genêt cendrier et le genêt d'Espagne remplissent un vide qu'a laissé l'homme. Les genêts peuvent bien causer une irritation esthétique, mais ils sont au-delà de ça le signe d'un déséquilibre plus profond. Bien que protégeant le sol et le nourrissant d'azote, ils rendent visible une réaction brusque, proche du basculement biologique, qui entrave le jeu de la diversité.
Du côté de Montfroc, les bêtes n'étaient pas transhumées. Pourquoi les brebis partaient d'en bas, d'Arles ou autre, même plus bas? Pourquoi? Parce que l'herbe était sèche et qu'il n'y avait plus de quoi alimenter. Donc les gens partaient en transhumance et allaient dans les Alpes, pour là où l'herbe était riche et verte, quoi. Voilà. Tandis qu'à Montfroc, du fait qu'il y avait quand même de l'herbe qui restait verte toute l'année, ben, les bêtes n'étaient pas transhumées, elles pouvaient rester sur place. Souvent, ils allaient sur les lignes de crête, voilà, un peu plus en hauteur, mais que le village qui était à 900, ils allaient jusqu'à 1200 à peu près, 1200, 1300. Mais ils n'avaient pas besoin de partir dans les Alpes. Voilà.
D'accord.
Après, la chèvre, l'avantage de la chèvre, c'est qu'elle mange en hauteur et à ras le sol. La brebis, ça ne mangera que l'herbe. Voilà. Les chèvres sont fragiles avec l'herbe. Elles chopent vite des parasites. Parce que 70% de leur nourriture, l'alimentation, c'est avant tout des feuilles. Des feuilles, des écorces, tout ce qui est un peu en hauteur. 30% après d'herbe. Voilà. Si elles ne mangent que de l'herbe, bah, au bout, ça les parasites. Donc il faut faire une surveillance, un contrôle sur les crottes pour vérifier les parasites qu'elles peuvent avoir et intervenir si elles sont contaminées. Voilà.
D'accord.
Alors que la brebis, non, pas du tout.
D'accord.
La chèvre, dans 2000 ans, elles seront aussi résistantes que les brebis. Mais il faut être patient.
Dans 2000 ans, une belle leçon de la nature qui ne se laisse pas tromper par l'invention d'organismes génétiquement modifiés ni enfermés dans nos calculs trimestriels de rendement. De manière modeste, le petit chemin rural regagné à travers le royaume des genêts a ouvert une capsule temporelle. Il a réactivé la balade avec la paysanne Malou d'il y a 20 ans. Il nous a fait ressortir de la jungle un piquet laissé par Paul Rabou, éleveur à Mévouillon à la même époque, dont les bovins avaient prouté l'herbe qui depuis a disparu sous les genêts. Ici, nous nous rendons compte de l'ampleur du basculement climatique et de l'assèchement général.
Je ne sais toujours pas ce que c'est. En fait, ça a l'air d'un biao.
Il faut savoir qu'avant, il y avait beaucoup plus d'eau que maintenant. Pourquoi ? Parce que toutes les terres étaient travaillées. Donc, il n'y avait pas l'évaporation par capillarité qu'il y a. Premier aspect. Second aspect aussi, c'est qu'il y avait beaucoup moins d'arbres que maintenant. Parce qu'un arbre comme ça, ça pompe de, je sais pas, peut-être 100 litres par jour d'eau. Hein. Donc, il y avait des sources qui étaient beaucoup plus abondantes que maintenant. Ça, tous les anciens me l'ont dit. Il faudrait partir en expédition et puis aller voir jusqu'où ça va.
Donc, un petit travail à faire. Une autre percée dans le mur le plus épais de genêts d'Espagne, de pruneliers et d'aubépines. Autrefois la meilleure et la plus naturelle des clôtures pour le bétail. Aujourd'hui, le défi de donner de la lumière à des essences autres que l'atelier de pansement que sont les genêts cendriers et d'Espagne. Allons, rentrons. Merci de nous avoir suivis.
Vous venez d'écouter un podcast de Toulourain Culture. Justin Winkler s'est baladé dans les genêts avec Rémi Gorge au Moulin de Barré le 11 novembre 2023. Montage Justin Winkler, novembre 2023.